BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
À vos côtés, dans votre camp. Jusqu'à 18h, c'est BFM Bourse chaque après-midi de 15h30 à 18h, effectivement. Cette séance qui se passe à nouveau bien, toujours les marchés en mode ascension hein, cette semaine, depuis hier. Ça continue encore un petit peu aujourd'hui, on va en parler. On va revenir sur les valeurs qui marquent cette séance, les valeurs financières en Europe hein, qui tractent vers le haut pas mal d'indices. On a UBS notamment ou encore UniCredit qui ont bien publié. On suit aussi aujourd'hui Bouygues après sa publication, là pour le coup un petit peu plus mitigé. Puis certains grands gagnants des derniers mois, des derniers trimestres sur le marché qui souffrent un petit peu, c'est le cas de Ferrari. Le titre Ferrari à Milan, figurez-vous, malgré quand même une publication plutôt pas mal, super aux attentes, mais des prévisions qui déçoivent un peu les investisseurs. Le titre Ferrari aujourd'hui est sanctionné. Voilà, le marché qui rachète ses mal-aimés, puis au contraire qui a tendance à peut-être un peu s'essouffler autour des valeurs les plus chèrement valorisées. On va en parler avec nos experts. Mais d'abord, 15h32, 9h32 à New York, c'est l'ouverture des marchés américains. Et USA Today, comme chaque après-midi, nos experts, ils sont en place pour vivre cette ouverture en direct. John Plassard depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour John.
Bonjour.
Vous retrouvez Étienne Braque aussi avec nous. Bonjour Étienne, depuis la Tour Euronext. Comment Étienne, Wall Street,
bonjour à tous,
se réveille-t-il?
Eh bien écoutez, après trois séances dans le vert, vous avez un S&P 500 qui est bien parti pour enchaîner une quatrième séance consécutive dans le vert, avec pour l'instant une hausse de 0,2% à 5192 points. Vous avez le Dow Jones qui grappille 0,1% à 38900 points, plus 0,1% également pour l'indice Nasdaq qui est à 16381 points, avec notamment Apple qui gagne un peu plus d'1%, avec notamment le groupe qui va tenir aujourd'hui une keynote qui est très attendue sur ses iPads, mais aussi sur l'intelligence artificielle. À l'inverse, c'est très compliqué pour Tesla qui perd du terrain, un titre très volatile, ça se confirme, moins 2% à l'instant, avec des ventes en Chine qui ont reculé de 18% sur un an le mois dernier d'après des statistiques chinoises. Et puis à noter également aujourd'hui un titre qui est en repli, c'est Coty, hein, vous savez, qui est spécialisé notamment dans les cosmétiques à Paris, mais aussi surtout à Wall Street historiquement, moins 2,7% malgré des résultats supérieurs aux attentes. Eh bien, vous avez des perspectives qui peinent à convaincre. 11,20 $ pour ce titre Coty. L'obligataire qui se détend à nouveau, hein, qui est sur des plus bas d'un mois. Rappelez-vous, il était il y a une dizaine de jours à 4,7%. 4,45 désormais, moins 4 points de base quand le 2 ans de son côté se stabilise à 4,82. Enfin, on termine bien sûr par les devises avec l'euro qui s'est bien repris ces derniers jours, au-delà des 1,07 très largement, à 1,0783. Et donc une tendance positive à Wall Street avec trois indices américains qui gagnent entre 0,15 et 0,23.
John, on constate que les anticipations de croissance sont en train de s'améliorer, toujours s'améliorer aux États-Unis, et l'écart avec l'Europe de se creuser. Que se passe-t-il sur l'économie américaine en ce moment? Qu'est-ce qui explique cette incroyable croissance?
Écoutez, c'est très intéressant de noter parce qu'on n'a jamais eu, quasiment jamais eu un écart de croissance du consensus entre l'Europe et les États-Unis. Je rappelle quand même que le consensus attend environ 2,5% de croissance pour les États-Unis cette année, alors que pour l'Europe, c'est 0,5%. Et on en parle beaucoup aux États-Unis, on moque un peu l'Europe. Et il y a trois raisons principales. Déjà, la première raison, c'est qu'on constate que les consommateurs et les entreprises ont bloqué les taux d'intérêt bas, vous vous souvenez, durant le Covid, sur une plus longue distance, c'est-à-dire que les entreprises et les consommateurs actuellement sont moins sensibles aux taux qui sont élevés aux États-Unis. La deuxième des choses, c'est que les États-Unis, contrairement à l'Europe, eh bien, tirent de plus en plus sur l'épargne et ont eu des augmentations salariales plus importantes qu'en Europe, et donc ils continuent toujours à consommer. Et puis, chose très intéressante à remarquer, c'est que ce qu'on a appelé le pivot de la Fed, vous vous souvenez, Guillaume, en novembre, eh bien, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, avait dit que le prochain mouvement serait une baisse des taux, qui devrait arriver cette année, hein, on l'attend toujours, eh bien, ça a considérablement assoupli les conditions financières. Donc, en résumé, si on regarde les anticipations, on peut les comprendre et on peut anticiper, c'est le cas de le dire, que la croissance américaine et les bénéfices des entreprises devraient rester élevés jusqu'à au moins la fin de l'année 2024. Donc, c'est toujours l'endroit où être, the place to be, comme disent les Américains.
Effectivement. Alors, ici, en France, on suit toujours la visite de Xi Jinping qui est dans les Pyrénées sous la neige. Tempête de neige, là, pour sa visite dans les Pyrénées avec Emmanuel Macron. On imagine que le président français aurait aimé un décor un peu plus enchanteur. Mais là, c'est le brouillard. Hein. L'image, peut-être, d'ailleurs, des relations entre la Chine et l'Europe et la France. Voilà le brouillard pour cette visite dans les Pyrénées, donc du président chinois. Mais cette relation, ce rapport de force avec la Chine, bien sûr, on le mesure à l'aune de notre Europe, notre belle et vieille Europe, bien sûr, mais aux États-Unis, on se mesure aussi à la Chine dans tous les domaines, y compris, bien sûr, Étienne, celui de l'intelligence artificielle.
Bien sûr, avec une guerre qui est en cours, une guerre technologique, John Plassard, concernant de nombreuses technologies, avec bien sûr l'intelligence artificielle. Qu'en est-il dans ce bras de fer, John ?
Bah écoutez, Étienne, lorsqu'on regarde, la grande absente, c'est l'Europe. Si on regarde, on voit que les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni se sont réellement imposés comme les principaux foyers d'innovation en matière d'intelligence artificielle. Si on regarde les financements, c'est là où on voit la plus grande, c'est ce qui nous donne les plus grandes idées concernant l'investissement dans l'intelligence artificielle. Bah écoutez, les États-Unis sont largement en tête avec des investissements privés dans l'intelligence artificielle de 335 milliards de dollars entre 2013 et 2023. En Chine, c'est 104 milliards. Donc, on voit que c'est un tiers de moins. Et au Royaume-Uni, c'est 22 milliards de dollars. Et si on regarde un peu plus précisément, eh bien, cette tendance s'est creusée encore plus cette dernière année, puisqu'en 2023, par exemple, les investissements privés aux États-Unis ont augmenté de 22% dans l'intelligence artificielle par rapport à 2022, alors qu'en Chine, les investissements ont chuté, tenez-vous bien, de 44% et au Royaume-Uni de 14%. Donc on voit qu'en termes d'intelligence artificielle, eh bien les États-Unis font toujours la course en avant, en tête et accélèrent même sur cette dernière année.
Effectivement, avec en plus les GAFAM qui ont une immense longueur d'avance sur les autres. Apple d'ailleurs fait des annonces, on en reparlera dans un instant, des annonces dans l'intelligence artificielle. Mais d'abord, notre coup d'œil quotidien, John, sur la présidentielle américaine. On est à 182 jours maintenant du scrutin. Alors on verra si l'intelligence artificielle nous permettra à l'avenir de connaître à l'avance les résultats d'une élection. On n'en est pas là, heureusement d'ailleurs. On en est encore à parier. Que disent les parieurs sur, effectivement, probabilité de victoire de l'un ou l'autre candidat à la présidentielle ?
Ah, vous savez, Guillaume, on parle souvent des sondages, hein, mais on sait que les sondages sont souvent faux, que ce soit pour le Brexit ou pour la victoire de Donald Trump en 2016. Bah, on regarde un petit peu plus ce qui se passe chez les bookmakers, chez les parieurs. Et on voit que c'est Donald Trump qui emporte la main avec une cote de 11 sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que si Donald Trump gagne l'élection, bah, le parieur récoltera 21 $ ou 21 €, c'est-à-dire votre mise de départ, plus 11 dollars. Si on regarde pour Joe Biden, eh bien sa cote est à 6 sur 5. Mais si vous voulez prendre des risques, Guillaume, et je sais que vous aimez prendre des risques, Guillaume, eh bien vous pouvez parier, tenez-vous bien, sur Michelle Obama. Et la cote de Michelle Obama est de 28 sur 1. C'est-à-dire que si vous investissez 1 euro, eh bien vous aurez en retour, si c'est la prochaine présidente des États-Unis en novembre, eh bien 29 dollars. C'est la même chose pour Robert Kennedy. Et dernière chose qui est très intéressante ici et un peu plus sérieuse, eh bien si vous pouvez parier sur le ou la future vice-présidente de Joe Biden, bah tenez-vous bien, Michelle Obama a une cote de 14 sur 1 et Kamala Harris de 25 sur 1. Qu'est-ce que ça veut dire très, très concrètement ? C'est que Michelle Obama aurait, selon les bookmakers, plus de probabilité d'être la vice-présidente de Joe Biden que l'actuelle vice-présidente Kamala Harris. Alors évidemment, à confirmer. Et puis, sur les risques, eh bien, si vous prenez Elizabeth Warren, si vous mettez 1 dollar ou 1 euro, eh bien, vous gagnerez 81 euros, Guillaume. Alors, allez-y, et il faut qu'on parie.
Effectivement. John Plassard en direct avec nous, c'est USA Today. Wall Street qui a ouvert il y a maintenant 10 minutes. Les indices américains sont dans le vert, plus 0,2% pour le S&P 500. Et bien sûr, ce rendez-vous USA Today, vous le retrouvez aussi en podcast et replay. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre BFM Bourse aussi en podcast et replay, puisqu'au mois d'avril, d'ailleurs, on a eu le chiffre d'audience tout à l'heure du mois d'avril de BFM Bourse, ben voilà, 319 000 téléchargements, c'est plus 135% sur un an, un immense merci à vous tous. C'est grâce à vous, effectivement, que nos podcasts et replay comme ça sont plus en plus suivis et ont plus en plus d'écho aussi. Alors justement, John, on poursuit USA Today avec cette ouverture américaine dans le vert. Etienne, une valeur néanmoins n'en profite pas. C'est même un très très net repli aujourd'hui pour le groupe Disney en bourse.
Qui est l'une des plus fortes hausses du S&P 500 avec un titre qui recule de quasiment 9%. Et pourtant, John Plassard, l'activité streaming est au-dessus des attentes, mais comme toujours dans les publications, le diable se cache dans les détails.
Exactement. Surtout que si vous regardez les chiffres en eux-mêmes, vous avez dit, le streaming, l'activité du streaming s'affiche enfin rentable. Mais si vous regardez, deuxième trimestre, les revenus sont au-dessus des attentes, les bénéfices sont au-dessus des attentes. Mais, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez un message de la société Disney qui vous dit que le streaming, qui vient d'être rentable, comme on l'a dit, eh bien, devrait avoir un prochain trimestre en baisse et devrait seulement sortir la tête de l'eau en 2025. Donc, évidemment, on n'aime pas. Évidemment, on ne salue absolument pas les résultats qui sont très bons. Et en plus, il faut noter ici que les parcs, vous savez, qui sont la vache à lait de Disney, les parcs d'attractions ont très bien fonctionné aussi. Eh bien ici, ce qu'on regarde, c'est les previews et notamment sur les streamings qui devraient être mauvais lors du prochain trimestre.
Oui, et le titre est littéralement châtié, ce titre Disney, moins 8% à Wall Street. En revanche, Apple fait un pas de plus. Eh, ça y est, il se dévoile peu à peu hein, chez Apple quant à l'intelligence artificielle. Donc un pas de plus pour aller développer chez Apple leur propre puce d'IA. Ça plaît au marché, le titre Apple gagne 1,5% de jeune.
Exactement, essayer de développer des programmes d'intelligence artificielle dans les centres de données. Et c'est très intéressant parce que cette initiative, elle s'inscrit dans le prolongement des efforts de fabriquer leurs propres puces, vous savez, qui pourraient équiper les iPhones, les Mac, etc. Et le mois prochain, on a une conférence qui s'appelle le WWDC aux États-Unis qui devrait donner de plus nombreuses informations, notamment sur l'intelligence artificielle. Et en face, eh bien, potentiellement, à un moment ou à un autre, on reparle du fait que Apple pourrait être un concurrent pour, tenez-vous bien, Nvidia. Alors, c'est absolument pas le cas actuellement, mais évidemment, ça fait un peu peur.
Effectivement, en tout cas Nvidia, peut-être un jour aura-t-il peur effectivement de ces GAFAM qui de plus en plus lancent leur propre programme pour tenter de le concurrencer. Apple aujourd'hui gagne 1,5% sur le marché américain. On va rester, Étienne, dans l'univers des GAFAM, un autre immense investissement annoncé aujourd'hui par Amazon.
Ah oui, et ça se passe en Asie une nouvelle fois. Décidément, c'est the place to be. John Plassard, on se souvient la semaine dernière d'un déplacement de Microsoft. Bah aujourd'hui, c'est Amazon qui annonce un investissement de quasiment 9 milliards à Singapour.
Oui, 8,9 milliards sur les 4 prochaines années à Singapour pour des infrastructures dans le cloud. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que Amazon a aussi annoncé le lancement d'un service d'achat en ligne en Afrique du Sud. Donc on voit que c'est une société qui se développe et vous le disiez, là on parle de Singapour, eh bien on peut aussi parler de l'Indonésie, vous l'avez dit avec Microsoft, mais aussi avec Google qui investit de plus en plus en Asie et notamment en Indonésie. Bon, ici c'est à Singapour, mais on voit que l'attrait devient de plus en plus grand. C'est pas le made in America, mais le made in Asia pour l'instant.
Merci beaucoup John Plassard, en direct avec nous USA Today, l'ouverture des marchés américains dans le vert. Étienne aussi nous accompagne bien sûr depuis la tour Euronext tout au long de l'après-midi. Le CAC 40, bah, pas de changement après l'ouverture américaine, on est toujours en hausse aussi à plus 0,7%. Infineon a publié ses résultats, ils sont positifs. Alors Infineon revient de loin, le titre perd quand même 15% depuis le début de l'année. Mais là aujourd'hui, on est sur une belle hausse d'Infineon dans son sillage STM, STMicroelectronics s'en profite. C'est la plus forte hausse du CAC à l'instant, plus 2,7%. Dans 10 minutes... notre portefeuille trading BFM Bourse. Si vous cherchez les niveaux, les supports, les paliers techniques à partir desquels les mouvements sur les différents titres pourraient se déclencher, rendez-vous dans 10 minutes donc avec ce portefeuille trading BFM Bourse et notre analyste Alexandre Tixier. Vous pouvez vous abonner bien sûr à ce portefeuille en flashant, en scannant le QR code qui apparaîtra sur vos écrans tout au long de l'après-midi. Mais d'abord, 15h44, voici la Bourse Cash et Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergam. Bonjour Aymeric.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes venu dire leurs quatre vérités aujourd'hui au marché, Aymeric. Vous êtes sûr ?
Je suis sûr.
Pour vous, Aymeric, et c'est votre message, mieux qu'investir dans la tech, ce qui rapporte en bourse, ce sont les holdings cotés. Il faut investir dans les holdings cotés. Ce message, vous l'assumez ?
Je l'assume totalement.
La tech, ça fait rêver. Les holdings cotés, un peu moins. Et vous dites, c'est pourtant là que se cache sans doute le potentiel à venir.
Exactement, parce que souvent on parle que de tech et que de croissance, mais en fait, la tech, ça fait les marchés, mais les holdings cotés, sur le long terme, eh ben, ça fait mieux que le marché. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans les marchés d'autres thématiques d'investissement qui sont moins travaillées par à la fois les analystes ou les gérants, et qui pourtant recèlent de pépites. Et c'est ça qui est très très intéressant. Alors on en connaît plein, on connaît les grandes, les méga, comme on a eu ce week-end avec Berkshire Hathaway, oui. Warren Buffett, Buffett, qui est quand même l'un des plus grands investisseurs au monde. Et qu'est-ce qu'il nous fait, Warren? Bah, il fait le même métier. Il va chercher des entreprises qu'il trouve pas très très chères.
Vous le connaissez? C'est un pote?
C'est surtout une idole. mais clairement, pour tous ceux qui font de la finance, c'est quelqu'un qu'on regarde et dans lequel on est très content d'investir, parce que justement, il nous fait profiter de son savoir, de ses équipes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont cotées. On a lancé chez Pergam un fonds sur les entreprises qui sont cotées, sur les entreprises holding, parce que justement...
C'est pour ça que vous venez nous en parler.
Parce qu'il y a aujourd'hui une vraie thématique d'investissement là derrière.
Non mais c'est bien, je voudrais juste souligner, parce que vous dites en passant, on lance un fonds justement sur la thématique, mais c'est très bien que vous veniez nous en parler, bien sûr ça vous permet de parler de votre fonds, mais surtout ça prouve que ce que vous dites ici à l'antenne, vous le faites dans vos gestions. Donc, ça c'est important que nos intervenants fassent ce qu'ils disent, on les teste, on vous teste régulièrement là-dessus.
Ouais. Exactement, parce qu'on a envie de faire gagner de l'argent à nos investisseurs avec des thématiques qui quelque part ont du sens. Et quand on investit dans des holdings d'investissement, on investit de façon diversifiée, mais on investit surtout sur des entreprises dans lesquelles il y a des alignements d'intérêts incroyables entre les managers et finalement les actionnaires. Donc aujourd'hui, ce sont des valeurs importantes dans l'investissement et qui sont à la base de tout investissement dans une société. Donc pour nous, c'est très très intéressant. Et ce qui nous fait dire que c'est aussi une thématique très intéressante, c'est qu'historiquement, sur ces entreprises-là, on a une décote de holding. Et les décotes, habituellement, c'est de l'ordre de 20% sur la moyenne historique. Et actuellement, elles sont de 30%. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus intéressant d'aller dans ce type d'entreprise. Alors, on a parlé de Berkshire Hathaway, mais il y en a partout. Voilà. On a en France la chance d'avoir Bolloré, on a Wendel, on en a beaucoup. Et on a, en Italie, par exemple, on a la famille Agnelli avec le holding Exor. Donc, il y a beaucoup d'entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vivier d'entreprises dans lesquelles on peut investir.
Oui, sauf que vous nous dites il y a une décote historique et structurelle. Là, on est peut-être sur un niveau de décote anormal dans l'univers des holdings cotés. Donc, vous dites il y a peut-être un rattrapage à venir. C'est
exactement.
Peut-être une bonne thématique. Mais toujours est-il qu'historiquement, structurellement, dans l'histoire des holdings cotés, il y a toujours une décote. Donc, vous nous proposez d'investir dans un secteur qui restera probablement, durablement, éternellement, on verra, décoté.
Dans un secteur qui est certes généralement décoté, mais dans lequel souvent la décote, quand elle est trop importante, se réduit. Mmh. Et donc actuellement, il y a plutôt tendance à avoir des réductions de décote. Mais attention, il y a aussi des entreprises dans lesquelles on n'a pas de décote. Si vous regardez de temps en temps Berkshire Hathaway, notamment la plus grande, bah elle a quasiment pas de décote. Donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui matière à aller investir dans cette thématique.
C'est laquelle votre préférée, Aymeric, de toutes ces holdings cotées? Tous ces holdings cotées, c'est masculin.
Très clairement, aux États-Unis, on va rester sur la plus belle, Berkshire Hathaway. On a une petite Canadienne qui s'appelle Fairfax, qui a beaucoup d'activités dans l'assurance. En Europe, évidemment, on a la chance, et en France, on a la chance d'avoir Bolloré. On investit aux côtés de Bolloré. En plus, on a de multiples véhicules pour investir aux côtés de Vincent Bolloré. Et on a cette Italienne magique, qui est la famille Agnelli avec Exor. Je vous rappelle, ils avaient Ferrari. Donc ça reste quand même des grands holdings. Ce sont des sociétés qui n'ont pas forcément des toutes petites capitalisations boursières, mais surtout avec des managers qui sont totalement alignés avec l'actionnaire.
15h49, il nous appelle. Étienne Braque depuis la Tour Euronext pour le suivi de cette séance de l'intérieur. Priorité effectivement la séance et au direct. Étienne, on est en hausse encore aujourd'hui en Europe.
En effet, avec un indice parisien qui est même sur les plus hauts niveaux de la séance, l'ouverture de Wall Street a permis au CAC 40 de grappiller quelques points et il s'installe au-delà des 8000 points. 8060 points, c'est une hausse de 0,8% pour la Bourse de Paris qui enchaîne aujourd'hui une troisième séance dans le vert. Bon, comme hier, il n'y a pas de volume. 1 milliard d'euros négociés dans l'indice moins de 2 heures du fixing. Il ne faudra pas s'attendre à des volumes énormes non plus dans les prochaines séances avec des investisseurs qui voient un CAC 40 sur des plus hauts d'une semaine. Un scénario qui est en train de changer. Il y a encore quelques jours, il pariait sur une baisse de taux en 2024 et désormais, il y a un débat qui revient à nouveau après ce rapport sur l'emploi américain vendredi qui est ressorti contrasté. Un secteur qui domine très clairement aujourd'hui, le secteur des semi-conducteurs et puis plus particulièrement à Paris, le secteur des spiritueux après hier la visite de Xi Jinping à l'Elysée et un discours encourageant sur le fait que le cognac ne sera peut-être pas taxé en Chine.
Effectivement, du coup, Rémi Cointreau, Aymeric historique et Pernod Ricard en profite. Des hausses un petit peu trop exagérées. Enfin, le marché s'emballe un petit peu là-dessus ou pas?
Non, parce qu'en plus, il s'était plutôt emballé à la baisse ces dernières semaines. Donc, il y a un petit rattrapage actuellement. Donc, c'est pour ça que ça reste quand même des titres qui sont extrêmement bien gérés. Elles avaient été très, très handicapées justement par ces nouvelles dans le passé. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment, pour ce secteur-là. C'est un secteur qui pour nous est en croissance, a beaucoup de potentiel et toute bonne nouvelle en provenance d'Asie sera bonne à prendre. En plus, on a la partie américaine qui marche souvent assez bien en ce moment pour ces groupes-là. Donc si ça se réouvre au niveau de l'Asie et qu'il n'y a pas de frein à la commercialisation en Asie, c'est vraiment des bonnes choses.
Le cognac, mais en effervescence, hein, ce segment des spiritueux, effectivement. Donc aujourd'hui, on a ce titre Rémy Cointreau hausse de quasiment 5%. Bon, vous dites c'est mérité, voilà. Surtout si effectivement le secteur parvient à éviter les taxes douanières en Chine. En tout cas, pour ce qui est du cognac. Et puis, on a aussi Pernod Ricard, aujourd'hui, en progression de 2,6%. Quand on voit le fait quand même que Rémy Cointreau, aujourd'hui, progresse presque deux fois plus que Pernod Ricard, c'est que Rémy Cointreau, sur cette question, est plus exposé.
Alors, il y a des histoires de flux, là aussi, qui sont importantes. Il y a des histoires boursières un tout petit peu différentes l'une par rapport à l'autre. Donc c'est pas tout à fait comparable.
La question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, alors qu'on va vous poser aussi, Aymeric, et pour tous ceux qui nous suivent en direct à la radio, à la télé, vous pouvez nous suivre sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Elle concerne justement cette visite de Xi Jinping qui s'achève là en France. Il est dans les Pyrénées en ce moment avec Emmanuel Macron. Alors sous la neige, on imagine qu'Emmanuel Macron aurait aimé tempête de ciel bleu pour la visite du président chinois. Eh bien, pas du tout, c'est le brouillard, peut-être à l'image des relations d'ailleurs en ce moment entre la France, l'Europe et la Chine. Et donc cette question qu'on vous pose, selon vous, les groupes français sortent-ils finalement un peu mieux que prévu, un peu plus gagnant que prévu de cette visite de Xi Jinping, avec peut-être un peu plus de contrats, voilà, un peu plus d'ouverture? Oui ou non? Mais vous dites oui, vous êtes une majorité à voter oui à combien? 71% et 29% en revanche d'entre vous pensent que non, les groupes français ne se sortent pas mieux que prévu de cette relation franco-chinoise à l'issue de la visite de Xi Jinping. C'est votre point de vue aussi? Enfin, Aymeric, comment est-ce que vous voyez le bilan de Xi Jinping en France?
Plutôt positif, parce que c'est très important de dialoguer, très important qu'il y ait des rencontres. Ça peut que améliorer les relations entre les deux grandes zones, qui sont deux grands partenaires économiques extrêmement importants l'un pour l'autre. Donc aujourd'hui, en plus, ça intervient dans un échiquier international, une géopolitique qui est extrêmement compliqué, donc où la Chine a clairement un rôle à jouer. Donc c'est pour ça que d'avoir des relations dans lesquelles on discute, on se parle et on se voit, ce n'est que plus positif pour non seulement l'économie, mais également pour les groupes français qui sont en effet très exposés à la Chine.
Mais on est très content pour les acteurs du cognac et des spiritueux, qu'effectivement il semble y avoir un pas. Mais enfin, entre le cognac et l'automobile, qu'est-ce qui est plus important? Sur l'automobile, par exemple, c'est là que les Chinois nous font plus mal. Il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a eu aucune avancée en l'occurrence.
Pour le moment, il n'y en a aucune là-dessus. Mais encore une fois, il vaut mieux dialoguer plutôt que de fermer la porte.
Oui.
Et sachant que c'est d'un côté comme de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que les Chinois favorisent assez nettement leur production pour essayer de mettre en avant leur production, mais est-ce que ça sera ad vitam aeternam à coup de pertes monumentales d'aide gouvernementale pour leur groupe automobile? Je suis pas sûr non plus. Donc c'est pour ça que le dialogue reste ouvert, et c'est ça presque le plus important aujourd'hui. Et il n'y a pas que l'automobile, on a aussi évidemment des partenariats importants dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Ça va évidemment du luxe jusque dans l'aéronautique. Donc évidemment, on doit maintenir un dialogue extrêmement fourni avec les partenaires commerciaux comme la Chine, tout comme les États-Unis également.
Alors le marché cherche de nouvelles idées quand même, hein. On le sent, même si le CAC 40 est en mode ascension, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, hein. Oui, bon, on gagne 0,8% là, en ce moment à la Bourse de Paris. Sur quels ascenseurs le marché pourra-t-il miser par la suite? Est-ce que les marchés européens feront mieux que Wall Street dans les prochains mois? On est à deux jours du 9 mai, c'est la journée de l'Europe le 9 mai quand même, on l'oublie souvent.
Peut-être.
Voilà. Est-ce que vous imaginez, avec les premières baisses de taux de la BCE, avec la sous-valorisation de l'Europe par rapport à Wall Street, est-ce que vous imaginez effectivement l'Europe faire un peu mieux que Wall Street sur les marchés dans les prochaines semaines?
Alors ce que j'espère surtout, c'est que les petites capitalisations, si on a une baisse des taux, viendront prendre le relais, ça c'est sûr. Mais sinon, non, malheureusement, j'ai malheureusement pas beaucoup d'espoir pour l'Europe.
Attendez, on a mis l'hymne européen et tout là.
Ouais, je sais. Mais par contre, la partie petite valeur, si jamais on a cette Europe qui enfin prend la bonne décision de baisser les taux avant les Américains, là oui, on va avoir un rattrapage assez net de toute une catégorie d'actions que sont les petites capitalisations, et ça serait une hyper bonne nouvelle. Donc on espère évidemment que Madame Lagarde prendra enfin une bonne décision, ou en tout cas la bonne décision d'intervenir avant les Américains sur la baisse des taux.
Oui, parce que c'est vrai, bon, on espère tous que l'Europe reparte de l'avant et
elle en a
surperforme dans la bio, dans la durée face à Wall Street. On l'espère d'autant plus qu'on voit un retour des mal-aimés quand même en ce moment sur le marché. On a vu la réaction à Téléperformance, sa publication, elle a été très positive. Worldline, pareil. La remontada bancaire aussi. On a trouvé une valeur bancaire, une immense banque européenne dont la performance boursière sur 3 ans est aussi incroyable que celle d'Nvidia.
Tout à fait.
Une banque italienne qui, sur 3 ans, progresse autant qu'Nvidia. Et ce n'est pas une toute petite banque, c'est un mastodonte. UniCredit, sur 3 ans, gagne 400%, quasiment autant qu'Nvidia.
Mais oui, bon, les banques italiennes, elles avaient été mises aussi tout en bas. Et évidemment, elle a une performance exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur bancaire en Europe, c'est le secteur qui a la meilleure performance depuis le début de l'année. Donc, en effet, c'est le secteur, quand on regarde les indicateurs techniques de momentum, ressort très nettement devant tous les autres. Donc aujourd'hui, oui, on doit favoriser le secteur bancaire. Et oui, il n'y a pas que Nvidia et il n'y a pas que la tech dans les marchés financiers. Il y a plein d'autres secteurs d'activité. Et les bancaires actuellement en Europe, c'est le meilleur secteur. Ça c'est une évidence.
Avec, ah oui, ah, carrément, c'est le meilleur secteur.
En termes de performance boursière,
ah oui,
clairement.
Et en termes de publication d'entreprise, publication de résultats, etc. et perspectives, c'est bien aussi. Enfin,
aujourd'hui, c'est extrêmement bon. Oui. C'est extrêmement bon. On regarde les bilans, la courbe des taux favorise quand même les banques, améliore la rentabilité des banques. Donc, le secteur bancaire est clairement investissable aujourd'hui, tout comme l'assurance. Donc, c'est les deux secteurs qui sont aujourd'hui assez clairement, qui ressortent clairement comme positivement impactés par les taux. Donc oui, c'est un bon secteur.
Incroyable quand même. Alors, on va être très honnête, c'est pas nous qui avons trouvé effectivement sur 3 ans cette performance du Crédit Suisse comparable à celle d'Nvidia. C'est quand même assez incroyable. C'est Valentin Offrand qu'on suit, qu'on recommande de suivre d'ailleurs sur Twitter. Très très bien vu Valentin, on en reparlera d'ailleurs tout au long de l'après-midi. Puis une autre valeur aujourd'hui à ne pas rater, c'est un relèvement d'opinion de Stifel qui porte Ubisoft gagne 3,8%, notre éditeur, notre champion français des jeux vidéo. Merci beaucoup Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergame, de nous avoir accompagné. Tout de suite, notre portefeuille trading BFM Bourse, Alexandre Tixier avec nous, l'analyste de ce portefeuille. Bonjour Alexandre.
Bonjour Guillaume.
Vous envoyez des alertes effectivement aux abonnés de ce portefeuille. Chacun peut s'abonner en flashant, en scannant le QR code qui apparaît là sur l'écran. Pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi à la télévision. Bon, oui, on est en mode ascension cette semaine sur les marchés, c'est le cas de le dire, mais enfin bon, on est toujours autour des 8000 et on a du mal désormais à progresser beaucoup au-delà. Quelle interprétation faites-vous de la phase actuelle de marché, Alexandre ?
Effectivement, autour des 8000, avec une petite hésitation là, sous forme de consolidation, on va dire, élargie, même si la forme est difficile à définir au sens technique. On est en tout cas sous les 8120. Ça, c'est une forme de résistance. Et là-dessous, on va rester assez prudent, nous, dans la gestion du portefeuille trading. Ça se traduit par une approche vraiment prudente. On a le pied complètement relevé sur la pédale de l'accélérateur, ce qui n'empêche pas, Guillaume, la recherche continuelle de titres qui surperforment le marché, des titres peu ou pas corrélés au marché et qui constituent des opportunités de stock picking.
Lesquels est-ce que vous identifiez cette semaine, ces titres qui techniquement envoient des signaux prometteurs ?
Alors, je vous parlais pour mémoire de Wendel et Gerber récemment, hein, qui rentrent pleinement dans cette catégorie. Je vais rajouter Assystem, qui est le titre d'un groupe d'ingénierie et de gestion de projet spécialisé dans les infrastructures entre guillemets critiques, et tout particulièrement dans le nucléaire. Vous savez, ce sont ces consultants qui sont présents notamment sur les chantiers EPR. Alors, la configuration graphique du titre est très puissante. Aucun signe d'essoufflement pour l'instant, ni par les cours, ni par les volumes, et surtout pas de divergence entre cours et force relative, un indicateur qu'on regarde souvent. Donc un titre en pleine surperformance par rapport à ces différents indices de référence. Je rappelle, donc c'est Assystem, pour le code mnémonique, c'est ASY, et on l'a donné le 24 avril en conseil à nos abonnés.
Effectivement, et ceux qui veulent recevoir beaucoup plus régulièrement vos alertes et vos conseils, bien sûr, il suffit de s'abonner en flashant, en scannant ce QR code qui vient d'apparaître. En plus, il est beau ce QR code. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre, mais on vous a gâté quand même.
Effectivement.
Il est beau. Il est très, très beau. Voilà, n'hésitez pas vous tous à le flasher ou le scanner. Dans un instant, la suite de BFM Bourse. Vous pouvez nous retrouver et nous suivre aussi sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com, et cet article consacré à Pernod Ricard et Rémy Cointreau qui cartonne à l'issue de la visite de Xi Jinping en France. Notamment, Rémy Cointreau, le titre gagne plus de 4%. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.